vendredi à partir de 11h sur Canal FM pour le débat.
Oh, shalom.
Production généralement de type artisanal.
C'est chemin faisant que les gens se retrouvent pour parler de ce qu'ils ont démarré, alors qu'il y a eu des vacances.
C'est pour soulager les femmes dans tous les secteurs, pas seulement que les portefeuilles.
Mais... Oui, je suis d'accord. Mais je dis pour le moment, il n'y a pas envie, quoi.
On attend, et à une période de l'année, ça reprend, rebelote l'année prochaine, rebelote.
Par rapport à ce dossier-là, franchement...
Moi, je n'ai pas rencontré quelqu'un quand même.
Si vous ne bénéficiez pas d'une santé mentale, vous ne pouvez pas vous épanouir, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas réfléchir.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Canal FM.
Bonjour, shalom, assalam alaikum. Nous sommes le lundi 29 mai 2023, journée chômée et fériée payée dans le Togo pour cause de la descente de l'Esprit Saint, la Pentecôte dans le monde chrétien. Cette journée n'est pas moins laborieuse en mains endroits du monde et même chez nous ici au Togo, avec ces nombreuses personnes qui continuent à s'activer, notamment au chevet de notre environnement, de notre planète Terre, qui est assaillie par des défis de toutes sortes. Il en est ainsi des représentants plénipotentiaires et experts des plus de 175 États membres de l'UNESCO qui réfléchissent actuellement à Paris sur la problématique des sachets plastiques. Le Togo a sûrement envoyé des experts. Et chez nous-mêmes au Togo, nous sommes à 3 jours du lancement solennel de la 46e campagne de reboisement. La journée nationale de l'arbre lancée par le feu président Gnassingbé Eyadema le 1er juin 1977 connaît un regain d'intérêt et une plus grande ampleur depuis que le président en exercice Faure Gnassingbé a lancé en 2020 l'ambition de planter 1 milliard d'arbres d'ici 2030 et porter ainsi le taux de couverture végétale à 25% du territoire national. Quel est le niveau des préparatifs de la campagne de reboisement 2023, dont le jour solennel sera le jeudi 1er juin prochain? Quelles sont les innovations envisagées par le gouvernement pour rendre la campagne 2023 beaucoup plus attractive et davantage inclusive pour toutes les couches de la population togolaise? Pour aborder toutes ces questions et bien d'autres, nous avons le privilège de recevoir pour vous aujourd'hui le ministre en charge de l'environnement et des ressources forestières, M. Katari Folibazi. Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour, cher ami Sass Gaou.
Vous êtes bien habillé en tout vert.
Merci beaucoup.
Casquette
merci.
À l'appui.
Ah oui, ben qu'est-ce que vous voulez? On est aux couleurs du 1er juin.
Et vous faites l'alliage entre l'environnement et le sport?
Absolument, parce que aujourd'hui, vous savez, le sport draine une grande couche des jeunes et qu'on ne peut jamais relever un défi quand les jeunes ne sont pas associés.
Merci. Quand le ministre Folibazi Katari se rend disponible pour cette journée, chemin férié payé, la question est d'importance, c'est pour qu'il nous parle de comment la campagne du reboisement 2023 se présente. Mais ce n'est pas que ça. L'actualité, c'est aussi tout un feuilleton de congrès statutaire des partis politiques avec des fortunes diverses ici et là. Et aujourd'hui, nous faisons le zoom sur le comité d'action pour le renouveau, le CAR qui vient d'organiser le second épisode de son congrès. C'était le samedi 29 mai, après un premier épisode, les 29 et 30 avril, qui s'était plutôt terminé dans une certaine pagaille. Après le 27 mai, Est-ce à dire que le bon sens et la sérénité sont vraiment de retour au sein du parti très cher à feu Maître Yovi Agboibo? Nous en parlons aujourd'hui avec M. Nicolas Agbo. Bonjour.
Bonjour Sass Gaou, bonjour aux auditeurs de votre radio.
Ancien député du CAL à l'Assemblée nationale, et quand je parcours les actes pris par le congrès BIS du 27 mai, je découvre que vous avez été élu deuxième vice-président du bureau que préside M. Daté Yaou.
C'est exact.
Eh bien, c'est à ce titre-là que vous êtes là pour nous parler les 29 et 30 avril. Et puis le 27 mai dernier, était-ce deux congrès différents ou bien le même congrès en deux phases? Vous nous en parlez. Vous en parlerez également les actes que vous avez pu prendre les 29 et 30 avril, les autres actes que vous avez pris le 27 mai dernier, vous nous en parlerez. Et comme vous savez qu'il y a déjà de la contestation dans vos rangs, comment est-ce que vous appréhendez tout cela? Voilà le menu de cette émission réalisée par Victor Bekoku Michel Tomega, qui va être rejoint par Gérald Akucha. Et nous vous saluons, vous toutes et vous tous, chers et fidèles auditrices, auditeurs, vous qui nous écoutez sur Canal FM, mais également sur toute la chaîne des radios partenaires, Radio Lumière depuis Aného, Radio La Paix, La Voix des Plateaux depuis Atakpamé, Radio Centrale FM à Sokoré, chez le ministre Foli Bazi Katari, également Radio Daoul à Bassin, Radio Sama FM à Baga, Niamtougou, Radio Courtoisie à Dapaon, mais dans le monde entier, les radios numériques comme Eben Radio, Radio Le Bénin ou d'autres applications qui nous permettent d'être diffusées dans le monde entier. Chers amis auditrices et auditeurs, nous comptons sur vous pour co-animer avec nous à partir de 12h. Vous composerez le 22, 21, 33, 74, ou le 91, 36, 63, 75. C'est parti avec monsieur le ministre Foli Bazi Katari. Rebonjour.
Bonjour monsieur Sass Gaou. Bonjour, bonjour, bonjour pour tout ce que vous faites. Le travail que vous abattez dans cette radio, ça fait une fierté de tous les médias du Togo et particulièrement de notre pays et les autorités.
Merci, monsieur le ministre. Eh bien, nous sommes à 3 jours du 1er juin 2023. Je présume qu'il y aura un lancement solennel de la campagne de reboisement pour cette année. Eh bien, dites-nous, à quel niveau des préparatifs êtes-vous, puisque c'est vous le ministre et votre ministère. C'est vous qui êtes la cheville ouvrière de cette opération.
Merci beaucoup, monsieur Salgao. Je voudrais profiter de cette occasion particulièrement pour vous remercier vous-même d'abord parce qu'aujourd'hui, c'est un jour férié.
Et je suis chrétien catholique.
Et en principe, vous devez être en train de louer le Seigneur. Et vous nous avez fait honneur en organisant cette édition particulière de ce lundi 29. Nous voudrons vous remercier par rapport à cet engagement. Ceci est la preuve de votre détermination à contribuer à l'évolution de notre pays et surtout pour le développement de notre pays. Je voudrais passer aussi par ce canal pour et remercier très sincèrement à travers vous tous les autres acteurs des médias togolais parce que je sais que vous-même et vos confrères des autres chaînes, vous êtes attachés à la question de l'environnement. Enfin, je ne pourrais arrêter sans remercier toute la population togolaise, notamment tous les jeunes, toutes les femmes, tous les fonctionnaires et pratiquement toutes les couches sociales et tous les membres du gouvernement qui sont aussi fortement mobilisés autour de cette question de l'environnement. Et je voudrais, comme vous êtes en train de le remarquer, nous sommes ici pour accompagner l'élan qui est pris depuis 2020. Vous l'avez bien dit que le 1er juin ou encore la journée de l'AB ne datait pas de 2020, mais c'est surtout à partir de 2020 que l'on a commencé à constater que le problème de l'environnement est au cœur même des préoccupations du gouvernement. Donc, nous voudrons profiter de cette occasion-là pour remercier les uns et les autres. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que en matière de gestion de l'environnement, il faut dans un premier temps avoir une mobilisation de toute la population. Mmh. Et c'est ce que vous avez contribué à rendre possible depuis 2020, parce que en réalité, si vous n'avez pas existé, vous les gens de médias, je suis sûr que la population ne saura même pas quelles sont les priorités du gouvernement. La population ne saura même pas qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire. Mais si aujourd'hui ma grand-mère sait que au Togo, le problème de l'environnement est au cœur du gouvernement, c'est bien à cause de vous, les gens des médias. En tout cas, à partir de 2020, nous avons noté une mobilisation croissante depuis 2020, 2021, 2022 et 2023. Et ça fait vraiment plaisir parce que ce sur quoi toute une population est mobilisée, naturellement, on a des résultats positifs. Pour en venir à la préparation elle-même.
Pour cette année 2023.
Pour cette année 2023, vous savez, en matière de reboisement, il faut réunir trois éléments. Le premier élément, c'est de s'assurer qu'il y a des surfaces à reboiser. Et je vous annonce avec un grand plaisir que notre ministère a mobilisé environ 136 000 hectares de terre disponibles pour le reboisement 2023.
136 000 hectares.
136 000 hectares.
Pour l'année 2023.
Pour l'année 2023. Et à cela s'ajoute la disponibilité des plants. Il ne suffit pas qu'il y ait des surfaces à reboiser, mais aussi il faut que les plants soient disponibles. Et aujourd'hui, on en dénombre environ 15 millions de plants disponibles. Quand je parle de 15 millions de plants, il y a des plants qui sont pratiquement faits par nos propres services et qui se trouvent dans toutes les préfectures et particulièrement dans toutes les directions préfectorales. Et aussi, nos frères et sœurs qui se sont mobilisés dans le domaine de pépiniéristes, dans le cadre des pépiniéristes, qui ont aussi produit les plants. Et à leur niveau, il est nécessaire que nous les encourageons en essayant d'acquérir ces plans-là. Oui. Et puis le troisième point fondamental, nous pensons quand même qu'il est fondamental, c'est la mobilisation. La mobilisation de toute la population. Ce que je venais de dire en disant qu'aujourd'hui, tout le monde, que ce soit vieux, jeune, cadre, tout le monde sait qu'au Togo, le 1er juin, est une journée d'un grand enjeu, surtout l'enjeu de l'environnement. Là, c'est déjà acquis. Enfin, le quatrième point, c'est celui de la mobilisation des moyens. Et cette mobilisation des moyens, de mon point de vue, n'est pas du ressort uniquement du gouvernement. C'est une mobilisation générale. Je sais que M. Salgao, vous-même l'année passée, vous nous avez annoncé avec grand plaisir que vous-même vous avez procédé au reboisement dans votre village. Et ça, je suis persuadé que c'est un investissement personnel. Donc voilà à peu près les quatre points sur lesquels nous sommes. Je peux dire que la surface est disponible, les plans sont là. Nous avons aussi la population qui est mobilisée et au plus haut sommet depuis le chef de l'État et Madame le Premier ministre. Vous savez, les éditions passées, Madame le Premier ministre, en un seul jour, a parcouru plusieurs préfectures de notre pays uniquement pour l'opération de reboisement. Ça, c'est une grande preuve de la détermination et de l'engagement Merci. Du gouvernement.
Vous disiez tantôt que pour la campagne 2023, votre ministère rend déjà disponible une superficie globale de 136 000 hectares. Alors, est-ce des domaines publics de l'État ou bien c'est une somme des contributions aussi bien des pouvoirs publics que des sociétés ou bien des privés?
Les 136 000 hectares, nous les avons comptabilisés comment? Il y a d'abord au niveau des ministères. Vous savez, certains ministères ont des domaines, ont des surfaces. Nous les avons comptabilisés. Ensuite, nous avons comptabilisé les surfaces mises à disposition par les collectivités locales, et particulièrement au niveau des communes et autres, là, et généralement quand ça concerne des terres que l'État a concédées à ses collectivités locales, et enfin nos propres réserves administratives et nos aires protégées. Donc, quand on comptabilise les trois, nous nous rendons compte que nous sommes autour de 136 000 hectares et que il y a des personnes privées qui ont aussi de grandes plantations et qui ont aussi l'ambition de développer des surfaces, de reboiser et autres. Donc, d'une manière générale, on ne peut parler que de ce dont on a sous la main. Oui. Mais pour les personnes privées, il est très, très difficile que nous arrivons quand même à les comptabiliser. En tout cas, ce qui est disponible. Et pour le reboisement, lorsque M. Tsalgao, par exemple, a envie de reboiser et il n'a pas une superficie, nous estimons quand même que ce qui a été mobilisé par le ministère de l'Environnement, c'est ça que nous venons de dire. Merci. Et nous sommes persuadés qu'avec les privés, eh bien, la superficie sera plus
merci.
Que
celle que les 136 000 hectares qui vont recevoir les plus de 15 millions de plants déjà prêts. Mais monsieur le ministre, ça va être une logistique. Comment transporter les 15 millions de plants à reboiser sur les 136 000 hectares, dont je présume que ce n'est pas à un seul endroit du territoire, mais réparti sur toute l'étendue du territoire national?
Ah, effectivement. Et nous nous organisons comment? C'est que nous nous disons que les plants ne peuvent pas être produits seulement à Lomé. Les plants doivent être produits sur toute l'étendue du territoire. D'abord à Lomé, au sens semencier ici, sans compter les pépiniéristes privés que nous connaissons bien, que nous-mêmes nous avons contribué à organiser, et il y a le même schéma à l'intérieur du pays. Si je prends par exemple la ville des Lacs, par exemple, la préfecture des Lacs, nous avons une direction préfectorale là-bas. Et à ce niveau, il y a déjà des plans qui sont disponibles. Il en est de même à Vaud, il en est de même à l'Est Mono, il en est de même dans la Causa et dans toutes les préfectures et communes. Donc nous avons tout fait pour rapprocher les plans de tous les acteurs. Donc du coup, nous demandons quand même, et nous l'avons dit dans le spot, que ceux qui ont envie des plans peuvent s'approcher de nos directeurs préfectoraux pour avoir ces plans-là. Mais de préférence, c'est que au moins on puisse consacrer quelques sous pour s'acheter les plants. D'abord pour encourager nos frères qui font des pépinières et qui en font vraiment une fonction et qui vivent de ça. L'année passée, nous leur avons dit de produire. Et il y a de cela 2020, ils ont essayé de produire tellement en quantité que finalement, bon, on était un peu gênés parce qu'à la...
Ils n'ont pas trouvé de preneurs.
Ils n'ont pas eu suffisamment de preneurs. Donc, ils étaient découragés, mais nous leur avons dit que nous sommes rentrés dans un programme décennal. Ce qui veut dire que nous sommes à nos premiers pas et qu'il ne faut pas qu'ils se découragent parce que pour nous, nous pensons qu'un jour, produire les plants sera même plus attrayant qu'être dans un bureau.
Merci, monsieur le ministre. Alors, pour le 1er juin 2023, ce sera le jeudi prochain, combien de plants comptez-vous que les Togolais mettront en terre pour symboliser la journée?
Mais merci beaucoup pour cette question. Vous savez, je voudrais profiter vraiment pour remercier madame le Premier ministre parce que lorsque nous avons commencé en 2020, et on avait un peu de doute compte tenu du fait que, bon, le 1er juin devenait tout simplement une forme de symbolique où les gens allaient juste mettre des plans et partir. Donc on se disait, mais si nous arrivons à mettre 500 000 plans, bon, ce n'est pas mal. Et nous avons essayé. Et puis l'année suivante, mandat le premier ministre disait, ben, il faut que nous soyons plus ambitieux. Pourquoi ne pas dire qu'en 2022, on va mettre en terre au moins 1 million de plans? Et effectivement, c'est que lorsque tout le monde s'est engagé, nous sommes sortis avec plus de 1 million de plans le seul jour. Donc, en tenant compte de cette belle expérience, qui est une expérience qui est une de l'audace, et nous pensons quand même que cette année, le challenge, nous pouvons le mettre jusqu'à 2 millions de plans cette année. Donc c'est ça notre ambition, et je suis persuadé qu'avec vous et surtout les zones de médias et pratiquement les élèves, les enseignants, les artisans et pratiquement tous les fonctionnaires, nous pourrons quand même atteindre les 2 millions parce que on sait que la journée là, elle est la journée symbole de mise en terre des plans.
Merci. Au moins 2 millions de plans à mettre en terre le jeudi prochain. Et avant la saison, on aura sûrement épuisé les 15 millions de plans en pépinière. Alors cela nous amène à faire le bilan, monsieur le ministre. Depuis que le gouvernement, le chef de l'État en tête, a lancé l'ambition de reverdir le Togo jusqu'à planter 1 milliard d'arbres d'ici 2030, de 2020 à ce jour, où est-ce que nous en sommes en termes de bilan?
Et en termes de bilan, ce que je voudrais dire, c'est que vous savez, une ambition, les grandes nations ont pu se réaliser sur la base des ambitions. Même lorsque le chef de l'État parlait d'un milliard d'arbres 2030, et naturellement, tout le monde se demande si c'est un rêve. Mais en réalité, il faut rêver grand. Et le chef de l'État, en décidant quand même, à travers la feuille de route gouvernementale, que nous ayons au moins 25% de la superficie, environ 1 milliard de plans, en fait, il ne l'avait pas fait comme ça. C'est que déjà en 2017, 2016, il a fait faire un inventaire forestier. Et de cet inventaire forestier, il ressortait que le nombre d'arbres qu'on abattait par an dépassait le nombre d'arbres qu'on plantait. Et naturellement, on dévastait à peu près 5000 hectares et qu'en réalité, on ne reboisait que 3000 hectares. Donc du coup, lui-même, il s'est dit, ben, si nous ne faisons rien, en 10 ans, ce qui est sûr, c'est que nous n'aurons même plus de forêt.
C'est ça.
Nous n'aurons même pas d'arbres. Parce que quand le nombre d'arbres abattus par an dépasse le nombre d'arbres qu'on plante, eh bien, la tendance, elle est claire. Alors, qu'est-ce que nous allons laisser comme héritage à nos enfants, à nos aux progénitures futures? Encore que nous-mêmes, nous subissons déjà l'effet des changements climatiques. Donc c'est à partir de là que l'ambition a été lancée pour dire il faut inverser les choses. Et du coup, déjà en 2020, nous avons constaté que nous sommes parvenus à planter plus de 3 millions et quelques arbres, ne serait-ce que pour l'année 2021. J'allais dire plutôt 2021 parce que c'est fin 2020 qu'on avait lancé l'ambition. Mmh. Et lorsqu'on a fini, le chef de l'État avait estimé que non seulement il faut le faire, mais il faut freiner aussi l'exploitation. Mmh. Et du coup, un décret a été pris. Et ce décret interdisait l'exportation du bois non transformé. Ça veut dire qu'avant, qu'est-ce qui expliquait le ravage, que les ravages qui sont faits? C'est tout simplement parce que nos compatriotes, avec la complicité de certains, allaient couper les arbres, oui, ou couper seulement des troncs, les mettaient dans des conteneurs pour que ces plants-là partent, ces arbres-là partent. Mais du fait qu'un décret a été pris disant que on ne peut plus exporter du bois brut, mm-hmm, du coup, il faut alors créer une industrie. Mm-hmm. Il faut créer alors les conditions de transformation du bois avant qu'on ne puisse l'exploiter. Du coup, nous-mêmes, au ministère de l'Environnement, nous avons constaté que la pression sur la forêt a fortement diminué. Voilà. Et pendant ce temps, le reboisement a repris surface. Du coup, on a équilibré déjà en 2021. L'année passée et 2022, l'année passée, nous avons reboisé 5 millions et quelques d'arbres. C'est-à-dire, on a presque fait le double de ce que nous avons fait en 2021. À voir par rapport à l'ambition, on a comme l'impression qu'on ne bouge pas. Mais en réalité, le plus long voyage, on le commence par le premier kilomètre.
Oui.
Déjà, il y a l'ambition, il y a la disponibilité, il y a l'engagement. Nous nous disons quand même que cette ambition-là, elle peut être atteinte. Et ça, si je voudrais encore vous souligner ceci. Parce qu'en réalité, ce n'est pas en comptant seulement sur le gouvernement que le chef de l'État, ou du moins au niveau du gouvernement, cette ambition est prise. C'est surtout aussi la mobilisation des opérateurs économiques. Et comme vous allez le constater, vous l'avez d'ailleurs constaté il y a un temps, il a été pris un projet de loi, un avant-projet de loi qui est devenu un projet de loi sur ce que nous avons appelé le mécanisme carbone. Pas un projet de loi, un décret. Un décret plutôt sur le mécanisme carbone. Le mécanisme carbone a fait que aujourd'hui les opérateurs économiques, au moins ceux qui s'y connaissent, généralement malheureusement c'est des étrangers, ils tapent déjà à nos portes pour dire qu'ils veulent faire le reboisement. Et quand ils parlent de reboisement, ils parlent de milliers d'hectares. Un opérateur économique nous a dit, ben, nous avons besoin de plus de 50 000 hectares pour commencer. Et vous imaginez, sur un hectare, nous reboisons au moins 1 500 arbres. Imaginez, une structure à elle seule décide de reboiser 50 000 hectares. Donc, du coup, et il n'y a pas que ces structures. Une autre, je peux citer notamment, et une autre structure nous a approché aussi pour dire, ben, écoutez, nous voulons rentrer dans le reboisement juste à cause du mécanisme carbone. Je parie que si cette dynamique-là est conservée, et d'ici quelques années, eh bien, le problème de reboisement va devenir l'activité numéro un.
Justement, monsieur le ministre, je pense que cette dynamique-là, vous avez le devoir de l'étendre auprès des sociétés extractives, hein, ces sociétés qui extraient nos mines, les phosphates, le calcaire, bientôt le manganèse à Naéga et le fer à Bandjili, également les sociétés qui construisent nos routes, ce sont des sociétés à mettre en contribution pour augmenter le ratio.
Effectivement, ça vous avez très bien, parce qu'on devait, en concertation avec mon collègue ministre du Commerce et des Industries, et ma collègue ministre de l'Investissement, nous avons déjà commencé à réfléchir à l'organisation d'une table ronde de tous les opérateurs économiques sur le problème de reboisement, surtout que nous avons la chance d'avoir ce mécanisme carbone. Ça veut dire qu'aujourd'hui, reboiser aussi devient une activité dans laquelle on peut investir. Puisque juste pour mettre sur le marché, le faire jouer le mécanisme carbone et gagner de l'argent, gagner même de l'argent plus que même créer une industrie. Et la conséquence, c'est que si vous rentrez dans le mécanisme carbone et que vous devez faire le reboisement, vous êtes bien obligé de recruter les jeunes et les femmes, non seulement pour mettre les plants en terre, mais aussi pour les suivre et les entretenir.
Alors justement, à ce niveau, un auditeur nous dit, quelle est la place que le gouvernement fait aux ONG, aux associations qui opèrent dans le domaine de l'environnement, comme JVE, Jeunes Volontaires pour l'Environnement et bien d'autres. L'autre question également, c'est quand on était jeunes, nous allions au camp de vacances, ceux qui faisaient le scoutisme et bien d'autres qui allaient au camp de vacances et qui procédaient à des reboisements d'une portion du territoire. Alors, l'auditeur voudrait savoir si le gouvernement pense à ces associations et à ces organisations.
Vous voyez, et je disais que dans la préparation de cette campagne 2023, nous avons eu une série de rencontres. Et les séries de rencontres, il y en avait à la fois les artisans, les enseignants et tous les autres secteurs. Et moi, je nourris vraiment le vœu même qu'un jour, on puisse avoir à Lomé ici et à proximité de Lomé une forêt de la presse. Pourquoi pas?
Nous avons commencé.
C'est-à-dire si...
Nous allons planter des arbres à l'université de Lomé.
Voilà. C'est-à-dire lorsque, par exemple, ça fait plaisir que lorsque vous recevez vos confrères de la presse de l'étranger, vous leur dites, mais on va faire un tour dans la forêt de la presse. Ça sera une innovation. Et je salue en même temps ce qui a été initié au niveau de l'université de Lomé. Vous voyez, l'université de Lomé est une structure, et ça, je salue le président de l'université, quand vous y allez,
le professeur Kokoroko,
parce que quand vous y allez, certes, c'est l'université, mais aussi c'est la verdure. Et cela nous a même poussé l'année passée à faire carrément notre point de presse au niveau de l'université de Lomé. Et cette année, vous savez, là où nous allons tenir notre conférence de presse, c'est à Néant, parce que le maire de la commune 1, depuis 2020, avec l'appel du gouvernement, est parvenu à mettre en place une forêt urbaine qui est en train de prendre forme. Je vous invite vraiment demain à y aller. Nous avons dit pour encourager des initiatives de ce genre et amener d'autres maires à faire la même chose. Nous allons carrément aller tenir notre point de presse là-bas et là, l'occasion pour nous de féliciter le maire à Kereburu et d'inviter les autres à le faire. Mais il en est de même quand vous êtes en train de le faire. Aujourd'hui, la plus belle rue de Lomé, c'est celle qui va du GTA jusqu'à l'université. Parce que quand vous y allez, vous êtes en train de parcourir cette rue. Vous avez envie de descendre de votre voiture et de vous reposer sous les arbres. Ouais. Heureusement qu'on n'a même pas mis les bancs publics. Sinon, je me demande si tout le monde ne serait pas tenté.
Monsieur le ministre, l'université vraiment qui est un poumon vert, un poumon d'écologie, un poumon de beauté. Notre université...
À nous ou ça c'est moi-même, nous avons fait ensemble.
Merci, monsieur le ministre. Mais avançons. Une chose est de planter les arbres, mais la meilleure chose encore, c'est d'en faire le suivi, l'entretien. Alors, quelles sont les dispositions qui sont prises pour un meilleur entretien de ces plants contre la sécheresse, contre les mauvais traitements en ville et en campagne, surtout contre les animaux en divagation, aussi bien en ville que les troupeaux d'animaux qui écument un peu nos campagnes.
Merci beaucoup, c'est une très très belle question. Parce qu'en fait, planter un arbre, c'est comme amener dans cette vie un bébé. Et un bébé qui apparaît, lorsqu'on l'abandonne, il ne peut pas se développer. De la même façon, planter un arbre, je causais avec certains qui sont venus me poser la même question en disant... Mais qu'est-ce qu'il a mis en place pour le suivi et l'entretien? Oui. Je lui ai posé la question. J'ai dit, là où tu as mis ton arbre l'année passée, est-ce que tu as au moins pris soin d'aller voir ce qu'est devenu cet arbre?
Puisque la charité est bien ordonnée, est censée commencer par soi-même.
Donc, je lui ai posé la question. Je dis, mais est-ce que au moins après, le lendemain, tu es allé au moins voir l'arbre que j'ai planté là? Et comment il se porte, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ce arbre-là se développe. Je veux que cette attitude-là nous habite tous. C'est-à-dire, lorsque nous mettons l'arbre, il ne faut pas qu'on ait l'impression que c'est parce qu'on nous a dit de venir mettre des arbres. Mais qu'on ait le désir de mettre l'arbre. Et d'ailleurs, avec les maires, nous sommes en train de réfléchir pour dire ceci, par exemple. Quel est le plus grand cadeau qu'on peut faire à quelqu'un qui fête son anniversaire si ce n'est pas planter un arbre à son honneur? Et même les mères qui célèbrent, par exemple, les mariages, pourquoi le marié et la mariée ne peuvent pas mettre certains plants en terre en guise de reconnaissance pour que demain, ils amènent leurs enfants pour leur montrer que voilà, ce arbre-là symbolise notre union, moi et mon mari, et carrément tous ceux qui les accompagnent. Oui. Par exemple, à Néhon, j'ai demandé au maire, il m'a dit, chaque fois que maintenant les gens rentrent pour la fête traditionnelle, avant de partir, quel que soit l'endroit d'où ils viennent, eh bien, ils font tout pour aller mettre des plants dans cette forêt urbaine. Et la forêt, il y avait les royaumes de Grigi, mais c'est bien réparti et c'est très attrayant. Je veux que tout le monde ait ce réflexe-là. Parce que l'arbre, lorsque vous le mettez et que vous le suivez les premières années, une, deux, trois ans, vous allez constater tout à l'heure qu'après un moment, vous n'avez plus besoin de le suivre. Parce que l'arbre a pris de l'envol et la nature va faire
le reste. Merci. Ce que vous dites, là, ça vaut en ville. Maintenant, quand nous allons dans les campagnes, hein, dans les milieux ruraux, avec surtout ces troupeaux hein, qui nous envahissent à tout moment et où il n'y a pas nécessairement quelqu'un derrière chaque arbre, là, il revient à vous, les pouvoirs publics, votre ministère, votre collègue de la sécurité, pourquoi pas de l'agriculture, de faire en sorte que les arbres que nous allons planter ne deviennent pas le pâturage de ces troupeaux en divagation un peu partout.
Merci beaucoup, M. Sass. Je crois que vous avez bien dit. Aujourd'hui même, nous avons les conditions pour mieux contrôler tous ces aspects parce que le Togo est un pays fortement décentralisé. Ce qui fait qu'il n'y a même pas un seul mètre carré du territoire qui n'est pas sous l'autorité d'un maire.
Mais sauf que les préfets, les maires se retrouvent souvent impuissants devant les troupeaux.
Oui, oui, mais généralement, oui, c'est ça, mais il peut faire appel aux forces publiques. Parce qu'en réalité, lorsqu'on est une autorité publique, on peut faire appel aux forces publiques. Mm-hmm. Pour que la police se mobilise, pour qu'un certain nombre d'acteurs se mobilisent, c'est pourquoi nous avons à tous les niveaux les directeurs régionaux. Nous avons à tous les niveaux les commissariats. Nous avons les directions sont partout. C'est parce que il peut arriver que dans un village précis, nous n'ayons pas nos services, mais quand même, ceux qui sont là peuvent faire appel. Mais je vous rassure, Monsieur Sass, c'est que partout où le reboisement a été fait dans les surfaces qui reviennent à l'État, notamment les aires protégées, autres là, nos éléments sont là pour suivre. Et c'est ça même qui explique même le résultat qu'on a. Merci. Et au niveau des rues, d'ailleurs, je vous annonce que depuis hier, nous étions en train de voir le cas de la rue qui part d'ici jusqu'à Canal Olympia et autres là sur le boulevard, en disant que ben, pourquoi ce boulevard-là ne pourra pas ressembler à celui de GTA, GTA jusqu'à l'université.
Le boulevard Yadema.
Voilà.
Il donc, de la colonne de la paix jusqu'au.
Voilà. Donc, il va falloir aussi que nos rues que nous sommes en train de construire, nous essayons de les verdir. Donc, nous sommes là-dessus. Certainement que le premier, en collaboration avec les maires que nous avons réunis, le maire de Golf 3, Golf 4, nous allons pratiquement mettre en terre.
Merci, le monsieur long le ministre. De ce... Mais il y a également deux dangers hein, qui menacent la vie des arbres. C'est les feux de végétation et les coupes hein, que font les parents dans les campagnes pour le bois de chauffe ou le charbon de poêle.
Et effectivement, les feux de végétation, généralement, c'est que lorsque vous mettez un arbre, il faut apprendre à faire ce qu'on appelle les pare-feux. Les pare-feux, c'est créer les conditions que lorsque même un feu s'annonce ou encore prend forme, que ce feu n'arrive pas, c'est-à-dire arranger autour de tout ce qui a été planté. Du coup, le feu s'arrête quelque part. Il va falloir, nous avons mis en place au niveau de tous les cantons, toutes les jours auparavant, ce que nous avons appelé les cellules de vigilance. C'est-à-dire, lorsqu'on fait des plantations, ces cellules sont en même temps autour des CDQ, c'est-à-dire les comités de jour, qui sont sur place, parce que c'est eux qui sont capables d'être alertés vite et d'alerter tout le monde par rapport à un feu qui s'annonce et créer les conditions pour mettre fin à ce feu-là. Par rapport à la divagation des animaux, vous savez, j'ai salué certains maires qui, déjà à Lomé, ici, ont pris des directives, ont pris des décisions qu'ils ne peuvent pas tolérer, rencontrer des bêtes qui sont en train de faire, que l'on retrouve dans nos rues. Ici, ce n'est quand même pas un lieu d'élevage.
Oui, en ville, il y a l'opération, l'opération de l'ONG de Madame Némé Nyasingbe, qui attrape les animaux en divagation qui s'en prendraient au plan. Merci, monsieur le ministre. Mais pour terminer avec vous, Alors, l'ambition que le gouvernement, par le chef de l'État, a lancée, à savoir planter 1 milliard d'arbres en 2020, est-ce juste un slogan ou bien est-ce qu'il y a une volonté réelle de faire en sorte qu'au 31 décembre 2030, que le Togo puisse comptabiliser au moins 1 milliard d'arbres que nous aurons plantés au cours de la décennie?
Non, ce que je peux dire, je sais que le président de la République, comme mandat le premier ministre, sont très, très, très pris pour se limiter à des slogans. Je ne crois pas que ce soit un slogan, du moins à ce niveau-là. Et ce qui est remarquable, c'est qu'ils n'ont pas seulement dit, mais nous-mêmes, on les retrouve sur le terrain en train de planter. Donc, ça sort de la logique d'un slogan. Et ce que je sais, c'est que quand vous rentrez dans une ambition, les premières années, vous êtes toujours dans la réflexion en vue de parfaire ce qui est. Et je venais tout à l'heure de vous énumérer tout ce qui est en train d'être fait, non seulement pour diminuer la pression, mais aussi et surtout pour augmenter les choses. Et Monsieur Sass, vous savez, jusqu'alors, nous avons bien envie d'interdire, par exemple, la vente du charbon ou encore du bois de chauffe. Mais ce que nous constatons, c'est que même le fonctionnaire dans sa maison a toujours une petite cuisine de charbon ou de bois juste pour les besoins lorsqu'il a grillé peut-être la tête de bœuf ou encore du mouton qu'il estime ne pas être adapté au gaz. Mais c'est de façon progressive, on est en train d'avancer et nous sommes en train de développer ce que nous appelons le principe de l'énergie, du bois énergie. Je crois que vous en avez suffisamment parlé lorsque vous étiez à Vogan.
À Momekatihoe le vendredi.
À Vogan le vendredi, je vous ai suivi, qu'il a mis en place quand même le principe de l'énergie bois. Ça veut dire que essayer d'avoir le bois, mais l'exploiter de façon méthodique pour ne pas remettre. Supposons que vous avez du bois qui se trouve être 1000 plants et que vous soustrayez ne serait-ce que 100 plants juste pour le ménage. Jusque-là, vous n'avez pas encore saccagé tout. Au fur et à mesure qu'on est en train de faire des efforts pour que dans le vécu quotidien du Togolais, il commence à s'éloigner un peu de l'exploitation du bois.
Merci Katari Folibazi, ministre en charge de l'environnement et des ressources forestières, qui nous entretient sur l'ambitieux programme du milliard d'arbres d'ici 2030 et comment ça se décline d'année en année, notamment les préparatifs pour cette année 2023. Vous restez à nos côtés pendant que je tourne vers le deuxième invité, Nicolas Kokouagbo. Rebonjour.
Rebonjour, Sass.
Ce serait vous faire insulte de ne pas penser que vous allez planter un arbre incessamment si ce n'est pas déjà fait.
Ce serait une obligation, mais c'est une obligation d'ailleurs.
Que vous imposez vous-même.
Voilà.
Ce n'est pas Folie Basile qui vous le demande.
Je profite pour remercier Monsieur le ministre. Parce qu'on dit souvent qu'un maître, c'est celui qui maîtrise sa matière. Les réponses qu'il vient de donner à vos préoccupations sont des réponses concrètes et qui vous ont satisfait. Et qui m'ont satisfait. Vous savez qu'au CAN, nous ne sommes pas des nihilistes. Nous ne peignons pas toutes les choses en noir. Quand c'est bon, nous disons que c'est bon. Quand ce n'est pas bon, nous disons que ce n'est pas bon. C'est pourquoi j'encourage le gouvernement à exécuter, tel que M. le ministre vient de le dire, ce programme pour le bonheur du Togo.
Merci Nicolas Kokouagbo, ancien député du CAN à l'Assemblée nationale. Vous avez été élu samedi dernier deuxième vice-président au cours de la phase bis de votre congrès. Je rappelle que le congrès avait été convoqué pour le 29 et 30 avril. Ce congrès s'est terminé en queue de poisson dans une certaine pagaille. Et puis, vous êtes retrouvé le samedi 27 mai dernier, plus au même endroit. Alors, s'est-il agi d'un autre congrès ou bien de la suite du congrès des 29 et 30 avril?
Monsieur Sass, j'aurais souhaité que ceux des nôtres qui voient autrement la chose, telle que les choses se sont passées légalement le samedi passé, j'aurais souhaité que quelqu'un parmi eux soit ici pour la contradiction. Mais à chaque fois, ce n'est pas le cas, c'est ce que j'ai un peu regretté. Alors, pour en venir à votre...
Je suis le premier à l'avoir souhaité, mais on pourra toujours se rattraper, pourquoi pas.
Merci beaucoup. Pour répondre à votre préoccupation, nous avions convoqué le congrès du CAP pour les 29 et 30 avril, comme vous l'aviez dit. Et le chronogramme que nous avions adopté devait nous permettre, le samedi 29, de faire un travail à l'interne, d'adopter nos tests, et lire les organes du parti, et le dimanche 30, faire une clôture solennelle pour présenter aux médias, comme d'habitude, ce qui est issu de nos travaux. Mais nous n'avons pas pu parvenir à ce que nous avons voulu faire. Exposer tout ce qui s'est passé ici nous prendrait beaucoup de temps. Tout simplement parce qu'il y avait eu des incompréhensions qui n'avaient pas leur sens. Nos tests disent que pour élire les organes du parti au Congrès, il faut privilégier le consensus et à défaut, aller au vote par liste. Nous avions au départ 6 candidats. 2 se sont désistés, il restait 4. Monsieur Daté, Monsieur Kissi Jean, Madame Yemé Etogwe Dagba. On a tenté à ce qu'ils se retrouvent pour pouvoir nous trouver un candidat consensuel autour de qui nous allons organiser le bureau pour pouvoir évoluer. Ça n'a pas marché. Cela veut dire que comme le consensus n'a pas pu avoir lieu, il faut aller au vote. Mm-hmm. Le président du bureau du Congrès a demandé à chaque candidat, puisque nos statuts prévoient que, lorsque c'est le cas, il faut, pour être, avoir pour être voté,
pour être ou bien soumis,
au deuxième tour, mm-hmm. il faut avoir le soutien du tiers des fédérations. Nous sommes 47 fédérations au plan national, et il faut avoir au moins 15 fédérations qui vous soutiennent. On s'est presté à cet exercice. Il y a M. Daté Yao qui avait le soutien de 27 fédérations. Nos tests prévoient que ces soutiens-là doivent être écrits et signés.
Et c'était le cas.
Et c'était le cas chez Daté que je vous ai montré. Mm-hmm. Les autres avaient écrit leur soutien sur papier à main. Nous avons soumis les 27 cautions signées au bureau. On devait passer aux élections. Et le candidat Jean Kissi, qui n'avait pas de soutien avec Mme Yemé, en principe était déjà éliminé parce qu'il n'avait pas pu obtenir le soutien de ses fédérations. Le candidat Kissi a demandé qu'on accorde au candidat 2 heures de temps, comme prévu dans nos statuts, pour pouvoir constituer la liste. Alors qu'il ne devait pas participer aux élections. Nous, du côté de Daté, nous avons fait notre liste. Il y a une commission spéciale qui s'occupe de ce dossier. Ce n'est pas statutaire. C'est Maître Agwebo lui-même qui met souvent en place au cours des congrès cette commission-là pour pouvoir arranger un certain nombre de choses, appeler celui-ci, on veut te mettre sur à telle pause, etc., etc.
Dans le sens du consensus.
Du consensus. Nous avons apporté notre liste parce que ce n'est pas le candidat qu'on vote, c'est la liste qu'on vote. Et c'est à ce niveau que le président du Congrès me dit d'attendre qu'ils sont en train de régler un certain nombre de choses. Nous attendions là quand on nous a appelés et à la salle, on nous dit qu'on a pris une autre décision et qu'on devait aller à une transition. Alors que des gens, les soutiens de... Il faut le dire concrètement, les gens ont vu, les journalistes étaient là, de Kissi ont bloqué la salle de la commission qui était pourtant climatisée.
Alors, en la matière, est-ce qu'il y a un article de votre statut qui prévoit ce cas de figure?
Lequel?
C'est-à-dire que devant l'impossibilité d'avoir un bureau consensuel, qu'on aille plutôt à une transition.
Non. Les statuts sont avec moi ici. Il y a rien n'est prévu de ça dans nos statuts. Il n'y a rien qui est prévu de ça. D'abord, Maître Agwebo est décédé. Succéder à un homme de la trame de Maître Agwebo, ce n'est pas facile. Et ce qui s'est passé, moi, au niveau du cas, nous savions que ça devait se passer. Ce n'est pas M. le ministre qui va me démentir ici, parce que c'est un animal politique aussi. Et c'est à ce niveau qu'on nous annonce une transition. Alors que nous devions adopter les nouveaux statuts amendés. Les travaux exécutés en commission, on devait les adopter avant de procéder à l'élection. Mmh. Et rien n'a été fait. Ils se sont transportés dans la salle du Congrès et voulaient lire une décision qui consacre une transition. Et à peine M. Dalnador a commencé par lire le truc que les congressistes l'ont arrêté. Et c'est comme ça que les choses se sont terminées à queue de poisson.
Donc, le 30 avril, vous n'aviez ni adopté vos statuts modifiés.
Rien.
Encore lu le rapport général du Congrès.
Pas du tout.
Alors finalement, sur quoi étiez-vous parti de ce Congrès le 30 avril?
Sur zéro.
Sur zéro.
Sur zéro.
Alors sur zéro, est-ce à dire que ce Congrès était consommé?
Le Congrès n'était pas fini. Et c'est la suite... C'est la reprise de ce congrès qui a eu lieu le 27 passé.
Et là aussi, il y a un article de votre statut qui vous
fonde. Les statuts disent que lorsque on est arrivé à ce stade, deux tiers des fédérations peuvent demander la reprise. Mm-hmm. Vous allez constater que sur les 31, les 47 fédérations, les deux tiers devaient faire 31, 33 présidents fédéraux ont signé une pétition au président du bureau du congrès pour reprendre le congrès. Mm-hmm. Vous avez tout ça là avec vous.
Oui.
C'est ce qui a été fait la dernière fois.
Mais sauf qu'entre-temps, avant que les 33 pétitionnaires ne demandent la reprise du Congrès, il a été mis sur pied une instance transitoire présidée par le vice-président Conlani, au sein desquels on trouve vos camarades comme Nador Aoukou et Jean Kissi.
Monsieur Sass, Si on a adopté aucun texte, sur quelle base ce bureau transitoire va être mis en place? Si on avait adopté aucun texte, sur quelle base on va mettre en place une transition? Maître Agbebo est décédé le 30 prochain, ça va faire 3 ans. On a fait une transition de 3 ans. Et on organise un congrès qui va déboucher sur une transition encore. Alors que on a modifié la charte des partis politiques qui oblige les partis légalement constitués au Togo à se conformer aux nouvelles dispositions et que le délai qui est donné, c'est 1 an et qui expire le 30 mai prochain, après-demain.
Dans 48 heures.
Dans 48 heures. J'ai été député à l'Assemblée nationale comme Jean Kissi et nous savons ce que c'est qu'une loi organique. C'est une loi d'importance capitale qui encadre le fonctionnement des institutions. Ce n'est pas un décret, ce n'est pas un arrêté, ce n'est pas une décision qu'on peut abroger. Mais il a eu le culot de dire qu'il a rédigé un document, un candidat malheureux, qu'il a fait signer par le président du bureau pour demander la prorogation, pour permettre au parti d'aller au-delà de 30.
Et vous trouvez que cette transition n'est pas statutaire?
Ce n'est pas statutaire. D'abord, on ne peut pas abroger ce texte, puisque c'est un truc organique. Ça doit aller au gouvernement, avec des exposés de motifs qu'on va envoyer à l'Assemblée nationale, qu'on va soumettre à une commission qui va travailler avec le ministre de tutelle. On va produire un rapport à l'Assemblée nationale pour convoquer une plénière et procéder à l'adoption des modifications qu'on devait apporter donc à cette loi. Ce qui n'est pas faisable, ce qu'on ne peut même pas faire. Ça veut dire que si on n'organise pas le Congrès et qu'on respecte les dispositions contenues dans la nouvelle charte des partis politiques, le cas n'existera plus après le 30.
Mais c'est pour sauver cette situation que...
C'est pour sauver cette situation que les présidents
fédéraux, 33, on se dit la pétition, qui ont convoqué ce congrès.
Oui.
Mais 33 fédérations sur 47,
oui.
Même s'il y a majorité, est-ce qu'il n'y a pas problème dans le sens du consensus qui était si cher à feu Maître Yovie Agbebo?
Vous savez, Maître Agbebo lui-même, comme je venais de le dire, c'est le rempart. Personne ne pouvait s'opposer à une proposition venant de Maître Agbebo pour déboucher sur un consensus. Depuis tous les congrès qu'on organisait, il n'y a jamais eu plus d'une candidature. Comment est-ce qu'on va parler encore de problèmes? Aujourd'hui, on a eu jusqu'à 6. Et je vous dis que c'est normal. C'est démocratique. Mais lorsque c'est le cas, ce qui est normal, c'est qu'il faut respecter les tests. les tests prévoient, monsieur le ministre, que non, si non, lorsque vous n'aboutissez pas...
Évitez de prendre le sac à témoin dans cette affaire.
Monsieur Sass, les tests prévoient que lorsque vous n'aboutissez pas au consensus, il faut aller au vote.
C'est ça. En somme, c'est ce que vous avez fait le 27 mai.
C'est ce que nous avons fait le 27 mai.
Et vous estimez que ce congrès bis est totalement légal.
Légal.
Et que le bureau qui en est issu est légal et
tous
légitime.
Tous les actes sont là.
Ok. Sauf que la veille de ce congrès, vos camarades s'étaient réunis dans la maison même de Maître Agboyubo pour protester contre la convocation de ce congrès. Mieux ou pire, ils ont écrit au ministre d'État, Paya de Wabukwesi, de vous interdire de tenir le congrès le 27 mai.
Ah, ils ont écrit au ministre. Ça, c'est vous qui m'informez. Je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est qu'ils ont écrit aux responsables de Muget de ne pas nous autoriser à faire le congrès là-bas. Là, j'ai cette information. Mais pour le ministre, je ne l'ai pas. Alors, ce groupe dont vous parlez, de cette personne, c'est un groupe hétéroclite. D'une part, il y a certains qui disent qu'il n'est pas question que quelqu'un de Yoto ou bien de Wachi prennent la tête du parti, et l'autre, c'est M. Kissi ou rien. Il y avait une guerre entre eux comme ça. Maintenant que les présidents fédéraux qui ont donné l'onction à M. Daté pour présider aux destinées du parti, ils se retrouvent comme s'ils sont unis. Si ce n'est pas le cas, ce serait la guerre entre eux. C'est la vraie explication que je vous donne. Donc, c'est des gens qui s'agitent pour rien.
Oui, il s'agit,
qui utilisent le domicile de Maître Agboyubo.
Il s'agit peut-être pour rien, mais le jour même, le 27 même, 27 mai, pendant que vous teniez votre congrès, ils s'étaient encore retrouvés, encore une fois, dans la maison de Maître Agboyubo pour protester vigoureusement contre les actes du 27 mai. Et ils aiment dire à qui veut les entendre que c'est eux qui continuent à détenir la légitimité historique du cas. Alors, par le fait des noms qu'ils sont et qu'ils tiennent leur réunion dans la maison d'Agboyubo, est-ce qu'il n'y a pas un problème sérieux entre vous, membres du cas?
On peut considérer ça comme un problème sérieux, mais utiliser le domicile de Maître Agboyubo pour c'est regrettable. Parce qu'un parti politique, ce n'est pas une question de famille. Personne n'a conçu le cas et l'a enfanté. Maître Agboyubo a créé le cas avec l'ensemble des Togolais. On ne peut pas en faire une question familiale. Et le porte-parole de la famille Maître Agboyubo, le jour du congrès, est venu dire que la famille Agboyubo n'a pas de candidat. La famille Agboyubo ne soutient aucun candidat et que la famille Agboyubo recommande qu'on respecte scrupuleusement les textes. Je veux parler de Maître Yaoumessan Agbeti, qui est le porte-parole de la famille. Au congrès, la dernière fois, vos collègues l'ont interrogé, il a répété la même chose, que la famille est derrière ceux qui respectent les statuts du parti. Et c'est clair.
Merci. Eh bien, donc, le 27 mai, votre congrès a doté le CAR d'un bureau dont vous êtes le deuxième vice-président. Dans ce contexte, comment voyez-vous votre mission, aussi bien pour faire revenir le bon sens, la sérénité dans vos rangs, d'autant plus que nous sommes à quelques jours des échéances électorales comme les élections régionales et surtout législatives?
Sass, lorsque vous prenez pour quelqu'un ou bien quelque chose que vous n'êtes pas, ou bien quelque chose que vous voulez que vous n'avez pas eu, il y a de ces frustrations. Mais lorsque des choses passent, je pense que ça se dissipe. Notre responsabilité en tant que dirigeant du CAR aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nos amis qui ne pensent pas de la même manière que nous aujourd'hui, que nous les ramenions. C'est ensemble que nous devons travailler pour l'épanouissement du parti. Nous avons une grande responsabilité à avoir le pouvoir et à l'exercer comme nous le voulons, comme Maître Agboyubo l'a toujours vu, dans la paix, dans la sérénité. Nous n'avons pas l'obligation de les repousser, mais de faire en sorte pour qu'ils reviennent. C'est pourquoi je lance cet appel à nos amis pour dire qu'il y a un moment. Pour ce qui s'est passé, c'est passé, et que la récréation est terminée. Nous leur tendons la main. Il faut qu'ils viennent. Ensemble, qu'on réfléchisse pour qu'on sauvegarde l'image de Maître Agboibo. L'agboibisme que nous voulons prôner, la méthode que tout le monde connaît de Maître Agboibo et qu'on a appliquée pour avoir beaucoup de choses avec respect vis-à-vis de ceux qui nous gouvernent, nous les invitons humblement à revenir à la maison.
Merci à vous, Nicolas Kokou Agbo, deuxième vice-président dans le bureau élu au congrès du 27 mai dernier. Comme je l'ai dit, répété dans cette émission, j'aurais bien voulu avoir les porte-parole des deux camps dans un débat contradictoire, mais c'est un premier jeu. Nous pourrions revenir là-dessus avec les autres ou bien encore avec les deux ensemble, mais mieux encore, c'est que avant même que nous les invitions ici, qu'ils se retrouvent au sein de l'agboïbisme pour retrouver leur consensus et venir nous le porter. Juste également rappeler que ce week-end a vu d'autres partis, comme le MCD de Maître Tchassona a tenu son congrès. Il a été reconduit. Nous n'avons pas connaissance d'autres bruits.
C'est ça.
Il y a également la CPP qui a fait son congrès le samedi. Et M. Adrien Beliki à côté a été également reconduit à la tête du CPP. Je n'ai pas connaissance d'autres bruits. L'autre parti, c'est le BAC, ouais. Le Bloc d'Action pour le Changement de notre Thomas Ntchoupoué, également tenu son congrès. Lui aussi, il a été reconduit à la tête de son parti, apparemment, plutôt dans des formes de consensus, ce que nous aurions souhaité pour le cas aujourd'hui ou demain.
Oui, ça, sur la question, je crois que c'est normal parce que la nouvelle charte des partis politiques que j'ai ici exige qu'il faut, après 5 ans, organiser un congrès et respecter toutes ces dispositions-là.
Mm-hmm.
Ils savent que s'ils ne le font pas, il y a des problèmes. C'est pourquoi tout le monde se soumet à cela. Quant à nos difficultés, je dis que c'est derrière nous. Maintenant que nous avons réussi, comme on le dit, à sauver le parti de l'abîme qu'on a voulu le pousser, Nous devons nous réjouir de cela. Et félicitations aux autres partis qui l'ont fait. Pour le parti de M. Tchassena, le nouveau président du CAI était, il a même pris la parole hier.
Mm-hmm.
Voilà.
Merci beaucoup. D'autres partis ont encore jusqu'au 31 mai, encore 2-3 jours pour se conformer.
Pas 31. Le moratoire est 30.
30 mai. 30 c'est-à-dire mai. Demain.
Demain.
Alors, la question me brûle les lèvres. Monsieur Qatari,
oui.
Vous êtes du Parti Uni.
Oui.
Est-ce que, en votre âme et conscience, vous vous conformez à la nouvelle charte des partis politiques demain 30 mai?
Ben, écoute, ce que moi je peux dire, d'abord, je voudrais vous dire que s'il y a pratiquement un parti qui a vraiment les maux de tête par rapport à la situation des partis de l'opposition, c'est bien le Parti Uni.
Et pourquoi?
Parce que le chef de l'État a toujours dit qu'on ne peut pas danser et s'apprécier soi-même. Donc, il a toujours voulu avoir une opposition forte en face. Parce qu'en réalité, c'est unir n'a rien devant lui. Donc, ça veut dire que nous n'allons pas ensemble arriver au bout de notre combat qui est celui de développer de notre pays. Et quand il s'agit de développer le pays, ce n'est pas une affaire des militants de unir seuls, mais c'est aussi une affaire de tous les Togolais, quelle que soit leur tendance politique. Là-dessus, c'est clair. Mais pour ce qui concerne le Parti Unir,
oui.
Ce que je voudrais vous dire, le Parti Unir a toujours tout fait pour se conformer au texte. Donc là-dessus, ne vous en faites pas. Vous aurez l'occasion de recevoir le secrétaire exécutif du Parti Uni, si vous le voulez bien. Et bien,
Vous en serez honoré.
Il aura l'occasion, j'espère que vous l'avez invité. Si vous l'invitez très souvent, il est très disponible. Je peux même dire qu'il est souvent disponible par rapport aux autres. Et c'est vraiment une occasion pour nous aussi de nous assurer que nos adversaires politiques doivent aussi être très forts pour que au moins ce pays puisse gagner le combat du développement.
Merci, il est 12h passées de 3-4 minutes. Nous marquons une pause le temps que la technique puisse passer un petit message de Canal FM à nos partenaires. Et puis les auditeurs peuvent se préparer à entrer en ligne. Qui, pour en savoir davantage de la part du ministre Folie Bazi Qatari ou encore de M. Nicolas Agbo sur la situation que vit le CAR actuellement. 93.5. Eh bien, c'est parti sur les deux numéros. Nos deux personnes ressources, nos deux invités sont à votre disposition. Je vous prie d'aller directement, de formuler vos commentaires, vos questions. Ils vous répondront. Ah, un auditeur s'annonçait, mais il est reparti, il va revenir. Eh bien, je rappelle que nous avons reçu le ministre Qatari Folie Bazi en charge de l'environnement des ressources forestières. Il nous a entretenu sur l'ambition que nourrit le Togo de planter 1 milliard d'arbres d'ici 2030 et notamment les préparatifs de la campagne 2023. Le deuxième invité, c'est M. Agbo du CAR. L'auditeur en ligne, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Sass.
Oui, c'est monsieur.
C'est Joseph Kounyegbe.
Joseph Kounyegbe.
Voilà.
Ok, nous écoutons.
Oui, comment vous allez?
Ah, nous rendons grâce à Dieu.
Je salue le plateau.
Merci.
Et plus particulièrement, je voudrais saluer monsieur le ministre Qatari, bonjour.
Bonjour.
Oui, je voulais intervenir par rapport au tout premier sujet abordé.
Allez-y.
Parler du reboisement. Et pour dire ça. J'ai eu à remarquer que quand vous venez aujourd'hui à Diaglé, qui était un grand champ, et presque toutes les surfaces, je dirais, voire même 80, voire 90%, ne sont plus cultivables. C'est des habitations.
Oui.
Mais au regard de cela, et nous parlons aujourd'hui du réchauffement climatique, si rien n'est fait, ne voyons-vous pas que ce serait la même situation un peu partout?
Mm-hmm.
Alors, si une politique pourrait être envisagé par le gouvernement pour que quand nous prenons par exemple le Diaglé dont je parle, au moins qu'il y ait une limitation des surfaces habitées.
Oui.
Je prends par exemple le long du fleuve Zio.
Mm-hmm.
Et aujourd'hui même vous allez voir qu'il y a des espaces aussi qui sont transformés en habitation.
Oui.
Mais
oui,
si on ne procède pas à une politique de limitation des espaces que nous transformons aujourd'hui en habitation, je crois qu'on pourra beau parler de reboisement, on pourra beau parler de lutte contre le réchauffement climatique, mais peut-être d'encore
20 ans, ce n'est pas perdu. Je vous prends témoin que quand le ministre Folie Bazi et moi-même nous arrivions à Lomé au milieu des années 80, oui. Lomé s'arrêtait à l'université du Bénin.
Absolument.
Et à Soviépé. Alors que le même maintenant déborde sur Zio et sur la ville. Monsieur le ministre, un auditeur également en ligne, bonjour.
Oui.
Allô?
Bonjour, Canal FM.
Oui, c'est monsieur?
Monsieur Arès.
Pardon?
C'est Arès.
Arès?
Oui.
Ok.
Bonjour au plateau et salut le ministre qui est sur votre plateau.
Oui.
Moi, je voudrais intervenir par rapport à le blanc qui se passe au niveau du CAR,
mm-hmm.
pour dire que on a l'impression que les gens sont réfractaires au respect des tests.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Parce que si les tests disent qu'il faut aller au consensus, et qu'à défaut du consensus, il faut passer au vote, pourquoi les gens ont peur du vote? Est-ce qu'ils ont peur qu'on viendra transporter les urnes ou bien quoi, je ne sais pas. Parce que c'était facile, hein, autant de Maître Agboyibo, d'avoir un consensus sur ta personne. Parce que monsieur Maître Agboyibo, mais qui à l'époque pouvait contester qu'il soit candidat, qu'il soit président. Donc c'était facile à l'époque d'avoir le consensus autour de la personne de Maître Agboyibo. Donc aujourd'hui, à partir du moment où on n'arrive pas à dégager
le
consensus,
maintenant on vote, c'est simple. De respecter les textes du parti.
Voilà.
Merci beaucoup.
Merci.
Monsieur Arès. Un autre auditeur. Ok. En attendant le prochain auditeur, monsieur le ministre, à l'endroit du premier auditeur.
Merci. Merci beaucoup. Et ce que je peux dire par rapport à la préoccupation du premier auditeur, c'est que il y a une chose qu'on ne peut pas arrêter. C'est la progression démographique. Par contre, ce qui n'est pas le cas avec nos pays, c'est qu'ils devaient avoir aussi un plan de développement des villes.
Mmh.
C'est ce qui n'avait pas été vous allez constater que même pour viabiliser des quartiers, c'est très difficile. Tout simplement parce que M. Sall se lève et puis il lui plaît d'aller vivre à Zangera. Mm-hmm. Ou encore, bon, il lui plaît d'aller vivre, à un endroit. Donc, il revient maintenant à l'état de faire des efforts maintenant pour viabiliser le coin. Mm-hmm. Je crois qu'avec la création de la nouvelle ville, qui est aujourd'hui une ambition du gouvernement, nous sommes en train de rentrer dans la logique d'un développement, mais quand même un développement un peu plus organisé.
Merci.
Tout le monde y gagne.
L'auditeur qui est en ligne, bonjour.
Allô, bonjour.
Oui.
C'est Monsieur Arlo.
Monsieur Arlo.
Oui.
Ok, nous vous écoutons.
J'aimerais m'adresser au ministre.
Oui, il vous écoute.
C'est-à-dire que j'aimerais lui demander quand est-ce que l'année au cours de laquelle le congrès de l'UNI, le dernier congrès de l'UNI a été fait.
Mais, ok, c'est pas le sujet sur lequel nous l'avons invité, mais je lui passe la parole, monsieur le ministre.
Oui, ben, écoute, nous sommes dans la légalité parce que nous, notre dernier congrès, c'est en 2019, donc nous ne sommes pas concernés par ce qui se passe de l'autre côté.
Merci. Maintenant, si vous pouvez l'interroger sur les sujets pour lesquels il est là. Monsieur Arlo, il est parti. Ok. Alors, monsieur le ministre, votre développement pour le premier auditeur.
Je disais que, vous voyez, lorsque la ville se développe, il faut que cette ville se développe selon un schéma. Mais jusqu'alors, nous avons assisté à un développement de la ville de façon anarchique. Lorsqu'il parle, par exemple, des berges des fleuves, en réalité, conformément au texte, nul ne peut ériger quoi que ce soit en bordure des rivières et des fleuves.
Oui.
C'est ça, c'est un texte qui existe.
Oui.
Mais quand vous voyez, l'État est bien obligé de sévir pour mettre fin à un certain nombre de choses. La dernière fois, vous rappelez bien qu'on a voté une loi, un avant-projet de loi sur les aires protégées.
Oui.
Mais en 90, les gens ont envahi les aires protégées.
Ça aussi, c'est une réalité. L'auditeur en ligne, bonjour. Allô?
Allô, bonjour, monsieur Sass.
Oui, c'est monsieur?
Abdoul.
Abdoul.
Oui.
Nous vous écoutons.
Je voulais poser la question au monsieur le ministre.
Et il vous écoute.
Bon, qu'est-ce que le gouvernement fait pour pouvoir interdire la barre des arbres. Parce que ce que les gens utilisent, c'est uniquement que le charbon de bois et le bois à feu.
Oui, oui.
On ne voit rien pour le gouvernement. Le gouvernement n'engage pas dans ce côté.
C'est
les
ça.
Paysans ne font que couper les arbres.
Couper les arbres
et
pour
les
le bois de cuisine ou le charbon de bois.
Oui, ils n'ont qu'à aussi nous aider pour réduire le prix du gaz.
Mm-hmm. Le gaz de cuisine, le gaz butane.
Oui. Oui, gaz butal pour pouvoir abandonner le charbon de bois.
Merci.
Merci.
Je vous en prie. Monsieur le ministre.
Oui, merci beaucoup. Je pense qu'on doit faire un distinguo. D'abord, il y a certains citoyens qui ont leur plantation privée. C'est-à-dire, lorsque moi, j'ai un certain nombre, une superficie dans laquelle j'ai essayé de reboiser, il peut arriver que je cherche à exploiter ce que j'ai reboisé. Du coup, interdire totalement qu'on coupe les arbres, ça va être difficile parce que ces gens-là, ils l'ont fait dans le but d'investir et de l'exploiter. Par contre, on peut réglementer, par exemple, lorsque vous avez 1000 plants et que vous voulez en même temps couper 500, 600, on peut dire ah non. Parce que votre arbre contribue en même temps à un équilibre écologique.
Oui.
Par conséquent, vous ne pouvez pas disposer comme vous voulez. On peut vous autoriser à exploiter plutôt tel nombre que tel nombre.
Monsieur le ministre, ce que demande Abdoul, hein, c'est nos parents à la campagne qui coupent les arbres sauvages. Hein, ce n'est pas leur propre plantation qui coupe nécessairement.
Ah oui, oui. Justement, à ce niveau, ce qu'il y a, c'est que normalement, la bataille des arbres est interdite. Normalement, c'est interdit. Parce que couper un arbre, surtout que ce n'est même pas un arbre que vous-même vous avez mis en terre,
mm-hmm.
tout se passe comme si nous tous là, chacun peut aller couper les arbres. Finalement,
c'est une question de survie pour ses parents.
C'est une question de survie pour les parents. Mais nous sommes bien obligés de gérer progressivement et voir comment on peut résoudre ce problème-là. Nous sensibilisons, nos directions préfectorales essayent de faire des efforts pour sensibiliser les gens, mais il a en même temps posé le problème du prix du gaz en disant, bon, peut-être si le prix du gaz est revu, la tentation d'utiliser beaucoup plus de gaz serait beaucoup plus perceptible. Oui. Je partage cet avis avec lui parce que je sais que les jeunes fonctionnaires actuellement, ils utilisent quand même le gaz. Mais sachez que l'augmentation du prix du gaz, malheureusement, tout ce que vous ne produisez pas vous-même, le prix vous est dicté par le producteur. Oui. Et que le gaz, nous l'utilisons, c'est vrai, mais le gaz n'est pas produit chez nous. Merci. Et du coup, lorsqu'il y a une inflation sur le plan international...
Monsieur le ministre, ce plaidoyer-là, portez-le au sein d'une instance que vous connaissez très bien.
Absolument, absolument. Nous allons... Je sais que c'est vraiment avec une gêne particulière que le gouvernement souvent accepte certaines hausses. Quand
même. Merci. Monsieur Agbo, un auditeur s'est intéressé à vous. Et pour lui, c'est M. Arès, vous avez un problème avec le respect de vos propres textes. En fait, c'est ce que l'auditeur dit.
Oui, je crois qu'il a parfaitement raison et je le remercie. Je lui témoigne toute ma gratitude pour ça, pour le simple fait qu'il ait invité les caristes et ceux qui sont à l'écoute, qu'il faut respecter les textes. Parce que les gens jouent du populisme. Et le populisme est à la démocratie ce que le cancer est à l'organisme humain. Si on le fait, on détruit nos partis. Mm-hmm. Nous avons l'obligation de respecter les tests que nous-mêmes nous nous imposons. Si ce n'est pas le cas, c'est de l'anarchie. Et nous pensons que, à partir de ce qui s'est passé au CAR, et que les décideurs, que sont les présidents fédéraux, ont redressé, ça doit donner d'exemple à nous tous, pour que prochainement, cela ne se répète plus.
Merci. Nous sommes ainsi à la fin de cette émission. Nous remercions les techniciens qui nous ont accompagnés. Vous qui avez sacrifié cette journée fériée pour venir nous entretenir. Mais les nombreux auditeurs ici d'ailleurs qui nous ont également écoutés. Toutes choses à une fin. Monsieur le ministre, vous avez exceptionnellement 2 minutes pour conclure ce débat pour le thème qui vous concerne, avec sûrement des appels que vous avez à notre endroit, nous les auditeurs.
Merci beaucoup. Pour les auditeurs, je voudrais d'abord les remercier pour l'intérêt qu'ils ont par rapport à la question de l'environnement, parce que s'ils sont en train d'écouter, c'est que cette question les intéresse. Et je voudrais profiter de cette occasion pour appeler pratiquement tous les Togolais à faire de planter un arbre un acte citoyen.
Et volontaire.
Il ne faut pas dire je plante parce que le gouvernement m'a dit de planter. Je plante parce que j'ai pris à la nature quelque chose. Il faut que moi-même, je restitue ce que j'ai pris. Qui d'entre nous n'a pas utilisé le bois pour cuire ses aliments? Qui d'entre nous n'a pas utilisé le bois sous forme de cure-dent? Qui d'entre nous n'a pas utilisé le bois pour sa toiture? La logique aurait bien voulu que nous restituions à la nature ce que nous l'avons pris. Parce que les générations futures auront aussi besoin de ces facilités, de ces conditions pour mieux vivre. Donc, que planter ne soit pas seulement un truc, mais que ce soit le plaisir de planter, la volonté de planter, planter pour que demain on soit fier d'avoir laissé quelque chose. Vous savez, ça, il y a une seule chose que vous pouvez faire et dont vous pouvez être fier au crépuscule de votre vie, c'est de dire que je n'ai rien. Mais je peux vous montrer au moins un arbre que moi j'ai planté et dont la population pourra bénéficier après moi. Voilà, c'est très très important. Parce qu'en réalité, tout ce que nous exploitons aujourd'hui, ce n'est pas nous qui avons mis ça en terre. Donc de la même façon, nous devons restituer ce que nous avons fait pour que les générations futures puissent au moins nous féliciter, du moins se dire que ceux qui nous ont précédés, ils ont été suffisamment responsables. Et j'en appelle à ceux qui, pour une raison ou une autre, se sont transformés en vendeurs de bois sans avoir planté, que en réalité le bois ou les arbres est un patrimoine national. C'est-à-dire que ça appartient à tout le monde. Donc aucun ne peut aller couper des arbres qu'il n'a pas lui-même planté juste pour faire du commerce. Si tout le monde devait se lancer dedans, je suis sûr que ça ce ne serait pas ici. Il aurait pu tout simplement chercher un raccourci en allant dans son village et abattre tous les arbres qui sont dans son village.
Il y en a pratiquement d'ailleurs plus.
Heureusement, bon, en tout cas, nous allons le reconstituer.
Voilà.
Et lorsque nous serons carrément en fin de vie, qu'on se dise, ben moi je n'ai rien eu, mais je crois avoir laissé à la nature et à ceux qui viendront après quelque chose qui est très précieux parce que ça leur donne de l'oxygène. Et je rappelle en même temps que dans le cadre des manifestations consacré cette année sur l'environnement, vous savez, le thème qui a été retenu, on dit la forêt et la santé. C'est-à-dire, il y a en même temps une relation entre la forêt et la santé. Je voudrais donc remercier les uns et les autres et dire que si nous tablons sur les 2 millions d'arbres, c'est parce que nous nous disons que le 1er juin, tous les Togolais sur toute l'étendue du territoire, par plaisir et volonté, vont chercher à mettre en terre un plan.
Merci à vous, Katari Folibazi. Nicolas Yao, Nicolas Kokou Agbo, également 2 minutes pour conclure cette émission, le thème de votre passage.
Ça, quand vous me regardez bien, vous allez constater que j'ai la chair de poule.
Oui.
Et c'est de joie.
J'ai senti même dans votre voix que vous étiez vraiment ému.
Voilà. L'émission que vous avez organisée ce matin m'a prouvé que les gens ont compris la situation du CAR avant qu'on ne fasse l'émission. La preuve est que quand vous avez ouvert le micro, il n'y a qu'une seule personne qui est intervenue dans ce cadre et qui a félicité et a recommandé le respect des textes. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier nos présidents fédéraux, Dieu merci, qui sont rentrés, de Djankassé à Sinkassé, sain et sauf. Adresser mes vives félicitations à M. Kolani, l'ancien premier vice-président, qui pendant 3 ans, avec quelle lucidité, a conduit ce parti jusqu'au Congrès la dernière fois. Et enfin, lancer un appel à nos camarades, frères et amis, avec qui nous avons combattu le bon combat, que nous menons le combat depuis du côté de Maître Agbebo, qui nous a toujours dit que tout homme qui naît a en lui une lumière qui reste latente, mais qui se développe par exercice, par expérience. Nous avons sa méthode et c'est ensemble que nous devons mettre en œuvre cette méthode-là pour le bonheur du peuple togolais. Je vous remercie.
Merci à vous, Nicolas Kokou Agbo. Merci à vous, Folibazi Katari. Et à travers vous, tous vos camarades et vos collaborateurs, vos supérieurs pour le ministre. Merci aux techniciens. Merci aux auditeurs qui nous ont suivis. À nous tous, chrétiens, musulmans ou d'autres confessions. Nous nous souhaitons quand même que le Saint-Esprit nous allume et nous enflamme positivement dans le sens du bien, dans le sens de l'amour. Et ainsi, nous nous retrouvons au plateau demain mardi. Michel, n'est-ce pas? Si Dieu le veut, Dieu le voudra. Dieu est toujours du bon côté, n'est-ce pas? Eh bien, rendez-vous demain mardi.